France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Audrey Bonnet. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Tenderfoot de Clarissa Connolly. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est à Venise à l'occasion de la Biennale d'art. Elle nous fera visiter ce soir le projet du plasticien Julien Creuset qui représente la France pour cette 60e édition. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Hugo Renard à la prise de son. Bonsoir Audrey Bonnet.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Tout va bien se passer.
Oui.
Vous allez reprendre Clôture de l'amour. Ça, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Cette pièce de Pascal Rambert avec votre partenaire Stanislas Nordet. Ce sera au Théâtre 14 à partir de demain, 23 avril, jusqu'au 4 mai. Spectacle créé, on le rappelle, au Festival d'Avignon en 2011, qui est devenu un succès mondial, que Pascal Rambert a créé dans de nombreux pays avec des duos d'acteurs locaux. Il est rare qu'une pièce deviennent comme ça quasi instantanément un classique, c'est le cas. On va bien sûr en parler, mais on va profiter de votre venue, vous le savez, pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur vos méthodes de travail. On évoquera aussi d'autres actualités proches, mais pour revenir au point de départ, alors on peut dire que si vous êtes né à Périgueux, de parents originaires du Sud-Ouest, c'est à Bobigny que vous avez grandi, ce qui a pour vous, je crois, dans votre formation sensible, dans votre rapport au monde, une grande importance. Quelles sont les sensations, les humeurs, les idées qui reviennent quand vous repensez à ces années d'adolescence ?
Des trajectoires dans la ville, en courant, d'un point à l'autre, tout en courant. Toutes les trajectoires, voilà, jamais en marchant. Pourquoi ? Parce que des fois c'était tard la nuit, en sortant des gymnases, des conservatoires, de l'école. Et voilà, c'était au milieu des cités, donc tout était à la verticale. Et à l'horizontale, ça allait très vite. Enfin, je sais pas pourquoi, il fallait vite se rendre d'un point à l'autre pour moi. C'était comme ça, peut-être, j'étais sous ma capuche, dans mon suite, et voilà, plutôt silencieuse, réservée. Qu'est-ce que ça évoque d'autre comme fréquence ? Des gymnases, beaucoup de gymnases, et le 14e étage d'une cité, Hector Berlioz, avec au très très loin, un tout petit point, la tour Eiffel, et le ciel de Bobigny, quoi, et toutes ces cités, et l'énergie. L'énergie des... Et à l'adolescence, des beaucoup de choses qui bouent, quoi, dans tous ces cœurs d'adolescents et qui, moi, dans mon petit royaume silencieux, viennent impacter très, très fort.
Alors, dans ce 14e étage, ou à ce 14e étage, il y a un père qui, est le jour, est fonctionnaire et qui, en dehors de ce temps-là de travail, est créateur, inventeur, qui fait de la photo, qui développe, qui écrit des poèmes, qui invente des jeux, qui fait du sport, surtout le ping-pong.
Ouais. Tennis de table.
Tennis de table.
S'il vous plaît.
Pardon. maintenant qu'on a presque des champions du monde, on dit beaucoup ping-pong là, maintenant. Hein. Ouais. On en parlait avec Boris Charmatz il y a peu. Bon, votre mère, il y a un amour de l'art, il y a une grande sensibilité, ça fait du coup un beau mélange. Mais votre premier désir artistique, il va plutôt, Audrey Bonnet, vers la photographie, ou même, ai-je lu, le désir d'être chef opératrice, donc là vraiment un métier technique du cinéma, la personne qui est derrière la caméra, enfin dans les deux cas, ce qui vous intéresse, c'est quoi, la lumière, les visages ?
C'est la lumière, c'est les visages, c'est le dessin aussi, le storyboard, j'étais aussi partie sur le dessin, enfin sur la porte, le regard porté, de pouvoir avoir accès comme ça, comme secrètement, aux êtres, à travers l'objectif, à travers le fait de les dessiner, de les tracer, de les écouter. Mais ça m'obsède toujours. Hein. Peut-être qu'un jour, voilà, la vie n'est pas finie. Je ressortirai ma caméra DV qui est déjà pleine de rush. Mais
au fil des années, et depuis ce jeune âge, vous avez toujours filmé ?
Non, je m'y suis mise tard. Je m'y suis mise en faisant du théâtre. Me mettre au théâtre m'a ouvert toutes les prises en main d'objets. Si, mon papa m'avait mis un appareil photo dans les mains, très tôt.
Oui, quand même.
Et il développait la nuit. Et donc, voilà. Donc, oui, les révélateurs et les...
Les bains.
Les bains. Tous les bains successifs. C'est merveilleux, ça.
Magique. Ouais. Alors, le théâtre, on y arrive à travers l'amour des mots, l'amour des textes, qui passe aussi par votre grand-père, mais la passion de vos parents pour des poètes, les lectures d'acteurs à la bibliothèque Elsa Triolet. Il y a quand même aussi à Bobigny un petit théâtre qui s'appelle la MC93, qui est pas mal dans son genre. Savoir comment tout ça se cristallise dans votre esprit pour ensuite aller, André Bonnet, au cours Florent, puis entrer ensuite au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Avant de le savoir, on va écouter un de vos camarades, Denis Podalydès, avec qui vous avez joué, sous la direction de Pascal Rambert, mais aussi de Roméo Castellucci, qui était mon invité. Là, je parle de Denis Podalydès dans cette émission en février 2023.
J'ai toujours associé le jeu, la mise en scène, parce que je lisais et que j'avais envie de voir les choses que je lisais en plusieurs dimensions, et donc je les imaginais toujours scéniquement. Et que même quand je travaillais au cours Florent ou au conservatoire avec des camarades, je m'occupais aussi des autres. Je rejoins ce que disait Barreau. C'est-à-dire, c'était aussi, j'aimais partager une lecture, avec d'autres. C'était le théâtre, c'était ça, c'était d'essayer de réfléchir ensemble à la façon dont on pourrait agencer ce texte sur une scène, de façon à ce que les idées qu'il contient passent, soient sensibles, intelligibles. C'était ça, donc c'est vrai que je dissociais pas, et quand je suis metteur en scène, je m'adresse aux autres, peut-être moins en tant que metteur en scène qu'en tant qu'aussi acteur parmi eux, mais qui a une fonction un peu déplacé, qui est d'être dans la salle et d'essayer de comprendre ce qui se passe sur la scène, de déchiffrer les signes émis par les uns et les autres, de les relier et d'essayer d'avancer dans un chemin qui est forcément au départ extrêmement brouillé quand même. C'est de la broussaille, on est dans une forêt hyper touffue dans les premiers jours d'une répétition, et il faut des personnes capables de clarifier un peu le chemin.
Alors, de mise en scène, nous allons parler tout à l'heure, Audrey Bonnet, puisque ça fait partie de vos nouvelles activités, celle de metteuse en scène. Mais vous aviez dit dans un entretien au journal Le Monde en 2017, je ne suis pas actrice ni comédienne, mais j'ai une fonction, donner envie aux gens de lire et de lire en eux. C'est aussi cet amour des mots qu'évoquait Denis Podalydès, d'être ce vecteur, ce passeur entre un texte et... un public.
Oui, c'est ça, comme il le dit très bien, Denis, ouais, relier les émetteurs, là où, voilà, qu'est-ce qui émet et comment on crée du lien entre ces fréquences-là, quoi, comment ça se relie. Alors, c'est assez mystérieux, je sais pas, j'aurais envie de dire aussi que je suis pas metteuse en scène, mais en fait, je m'y colle finalement, sur divers projets, et soit parce qu'on me demande d'y venir, soit parce que je m'y suis mise malgré moi sans trop m'en rendre compte, en voulant accompagner et en disant mais si, ça faut le faire, on va le faire, il n'y a personne pour le faire, et ben je vais le faire, allez, on y va. Et pour, ouais, et puis tout, comment dire, on passe notre temps à ça en fait, quand on est artiste ou quand on, voilà, qu'on soit acteur, dessinateur, chanteur, on relie ce que le monde émet, ce qui s'émet dans le monde. Et ça crée des ondes qui sont parfois très explicites et parfois pas du tout. Mais de faire en sorte que ça soit toujours des surfaces de projection et de... ou que ça continue à battre et que ça nous emmène un petit peu plus loin, peut-être, ou que ça nous révèle, ou que ça révèle au spectateur, à l'auditeur, ou à celui qui est en train de le faire, quelque chose pour aller un tout petit pas plus loin, une autre voie qui s'ouvre, comme sur une paroi d'escalade, où on se dit, ah, on peut aller par là. Bon, c'est peut-être, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais en fait, ça vient se flanquer partout. Ça vient se flanquer autant dans l'art que dans la vie, que dans croiser quelqu'un dans la rue et tout d'un coup, bah, par un échange, ouvrir une voie. Mais c'est vrai que ce mot qu'emploie Denis, Denis Podalydès, d'émission, émission, il me parle beaucoup. Je ne saurais pas dire autre chose que ça, que je suis une émettrice quand je joue, quand je dis des mots, et un réceptacle quand j'entends et pour relier ceux qui sont en train d'émettre.
Alors, il y a cette prédisposition, peut-être, mais il y a aussi, évidemment, ces années d'apprentissage, de formation que j'évoquais tout à l'heure, cours Florent, conservatoire, auquel on peut peut-être ajouter, avec tout le respect que je dois pour cette grande maison, la Comédie Française, parce que vous allez y rester peu, mais y jouer beaucoup, Audrey Bonnet. C'est là aussi que vous travaillerez pour la première fois avec Pascal Rambert, on va y revenir, mais... est-ce que c'est la formation qui continue, la Comédie Française, d'une certaine façon ?
Je sais pas. Je sais pas si je dirais comme ça. Si tant est qu'on se forme tout le temps, alors oui, on prend forme.
Le rythme est soutenu.
Le rythme est soutenu. Et quand j'y étais, on n'était pas beaucoup de jeunes. On était peu nombreux, donc c'est vrai que c'était intense. Moi, je l'ai vécu vraiment intensément, pleinement. Mais en y entrant, je m'étais dit que c'était un endroit de passage. J'ai cette arrière-grand-mère en moi qui me dit tout le temps, on fait que passer, dans son patois de l'Aveyron, pardon, j'arrive avec toutes mes histoires, mais le fait d'être dans ce studio fait qu'on se met à parler. C'est très étrange. Bon, voilà. Et donc, de passer, de faire que passer. Aussi, c'est-à-dire qu'avant d'y rentrer, j'étais déjà en train de travailler avec Pascal Rambert sur des workshops.
Au Jeune Théâtre National.
C'est ça, au Jeune Théâtre National, et on devait faire Paradis ensemble au Théâtre de la Ville. Et je vais dire, mais non, attends, moi je peux pas rentrer au Français, je veux faire Paradis. On a fait tous les workshops avec les danseurs, les acteurs. Il m'avait dit, mais non, tu ne peux pas refuser, on se retrouvera. Bon, d'accord, donc j'étais allée, c'était Marcel Bozonnet, qui était le directeur du conservatoire, qui m'avait proposé, voilà, qui m'avait tendu la main pour y aller. J'y étais rentrée avec Mathieu Genet, Bakary Sangaré et Madeleine Marion. C'était un beau moment de signature. Ça avait beaucoup de sens, de signer avec ces trois êtres à ce moment-là. C'était fou. Ça m'ouvrait, encore une fois, ça m'ouvrait des voies. Et oui, c'était intense. Et voilà, j'ai vécu intensément. J'adorais tout ce qui s'est passé au studio, dans le studio théâtre sous le Louvre, sous les vibrations du métro.
Et notamment, en effet, ces retrouvailles avec Pascal Rambert et Mathieu Genet, on va en reparler. L'aventure continue. Mais effectivement, cette année 2000, il y a cet atelier que Pascal Rambert vient faire au Jeune Théâtre National. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est quoi la première rencontre entre Audrey Bonnet et Pascal Rambert ?
C'est j'arrive en retard avec un sac. J'arrive en retard et en fait, en rentrant dans la salle, j'avais lu le texte avant qui était Asservissement sexuel volontaire. Je découvrais l'écriture de Pascal Rambert et j'arrive dans cette salle et je sais pas, ils étaient assis tous autour de la table et je sais pas, peut-être que je m'étais déjà donné rendez-vous avec ce que j'avais lu dans les mots. Je savais que j'allais vers quelque chose et en le voyant, en l'entendant et en l'entendant nous proposer le début du travail en disant vous parlez si vous voulez, si on ne parle pas pendant une semaine, on ne parle pas pendant une semaine, vous dites les mots que vous avez envie de dire dans ce texte et si on ne le dit pas, on ne le dit pas, on y va, on s'écoute, et voilà, c'est un temps réel, un temps présent, tous les uns aux autres, et là, mais je me dis mais voilà, c'est pour ça. C'est exactement pour ça que j'ai fait quelques années d'école avant, c'est pour aller vers ça. Et je sais pas, d'être à l'écoute comme ça, dans le silence, de ce que les corps émettent déjà avant qu'ils se mettent à parler, de croiser des regards, d'attraper une main, de se mettre dans un coin, de pas en bouger, d'avoir cette liberté-là. Je dis c'est ça et ce sera ça.
Les retrouvailles se font donc en 2005 avec le début de Là, au studio théâtre de la Comédie Française. Texte et mise en scène de Pascal Rambert. Un spectacle que vous reprendrez d'ailleurs à Gennevilliers au moment où il en était le directeur. Et puis arrive ce Festival d'Avignon 2011, la création de Clôture de l'amour, un argument que je rappelle et qui est quand même suffisamment simple, ça ne va pas nous prendre longtemps. Stan annonce à Audrey qu'il la quitte, près d'une heure de monologue. Et Audrey répondra à Stan, près d'une heure de monologue, il y aura une Une chorale d'enfants aussi qui chante quand même. Quel souvenir vous gardez, Audrey Bonnet, de la première lecture de cette pièce ?
Incroyable, il est très vif ce souvenir-là. Il est dans la cuisine de Pascal Rambert, rue Saint-Luc. J'allaitais ma petite fille et donc c'était entre deux allaitements. Il neigeait. Donc je faisais juste gaffe de pas glisser entre chez moi et la lecture pour pas voilà tout faire foirer. Et donc j'arrive et puis on parle deux minutes au jour et on se met à lire dans la cuisine. Voilà, avec Stanislas que j'avais croisé de ci de là mais que je ne connaissais pas bien. Dont j'aimais la voix, donc d'avoir déjà cette voix qui m'arrive là, de l'autre côté de la table de la cuisine, à côté de l'évier, ça j'en revenais pas. Et puis... Et au fur et à mesure de ce qu'on découvre du texte, puisqu'on découvre le texte dans sa cuisine, en les mettant pour la première fois, avec des pages recouvertes en entier, sans aucune ponctuation, c'est, comment dire, c'est une espèce de précipité de cardiaque qui m'est arrivée et où je me suis dit, c'est dingue à quel point il est venu se pluguer sur mon... à l'intérieur de moi, quoi, dans mes comme si c'était plugué dans mes entrailles, pour dire allez vas-y, tu peux vite ta vie avec ces mots, c'était une sorte de je sais pas, d'évidence, de rencontre, de vas-y continue à parler tout ce que t'as pas dit, sors tes fréquences, sors tes, pas forcément le sens des mots, pas forcément l'histoire, mais vas-y. Comme s'il avait entendu je sais pas, l'instrument de musique que j'étais, ou l'être humain, l'âme, le tout, et qui me disait allez, vas-y. Et j'entendais Stan en face, pareil. Et donc c'est un choc. C'était un choc, une déflagration. Et je pensais à tous ces auteurs qui avaient écrit pour les acteurs. Je pensais à Marivaux. Je me disais ah mais c'est ça qui se passe. Non, quelle chance.
Alors, je recevais Pascal Rambert dans cette émission, c'était en octobre 2020, à l'époque, il y avait déjà eu 12 versions de Clôture de l'amour à l'étranger qu'il avait lui-même mises en scène. Il y avait à l'époque 14 autres versions jouées de par le monde, mises en scène par d'autres que lui. Il y avait déjà eu 26 traductions différentes, alors ça c'était il y a près de 3 ans et demi, donc les chiffres ont forcément augmenté. Forcément, en ce moment, quelque part dans le monde, quelqu'un... joue Clôture de l'amour. Voilà, c'est statistique, c'est comme ça. Je lui avais demandé s'il était encore surpris, près de 10 ans après, par ce succès. Écoutez sa réponse.
Par exemple, demain, je pars aux Aurores à Bilbao, parce que ça fait 4 ou 5 ans que je devais faire la version basque. Non, mais
ah
oui.
Ouais.
Mais j'en fais une version par an, franchement. Quand vraiment j'ai envie, quand les acteurs sont super, quand le rapport à la production est bien et que c'est agréable. Et la dernière que j'ai faite au Caire, en Égypte. Mmh. Et j'avais envie de faire ça au Caire, chez Ahmed El Attar, parce que c'est un super festival. Et puis voilà. Bon, bref, j'avais fait
d'autres choses. Vous l'avez fait au Japon, aux États-Unis, partout, en Moscou. Voilà.
Et donc j'en fais une par an, une tous les un an et demi, comme ça, quand vraiment je... Et là, sur... Bon. Mais c'est... comment dire, c'est... Je pense que ça arrive qu'une fois, déjà, et moi je crois que ça tient beaucoup aux acteurs, en fait, puisque le soir de la première, tous les producteurs qui étaient là, finalement, m'ont appelé le lendemain, et ceux qui avaient aux têtes nationales de Zagreb, ou aux têtes nationales de Thaïlande, etc., ils parlaient pas du tout français. Donc ce qu'ils ont vu, ils ont vu des corps, ils ont vu une énergie, ils ont vu un truc hyper tendu, mais ils sont pas rendu compte de la langue. Ils ont vu des acteurs avant tout.
Alors, on comprend bien ce que dit Pascal Rambert, mais si les acteurs n'ont pas de texte, n'est-ce pas, Audrey Bonnet, mais quand même, revenir à cette première heure de Clôture de la mort. celle où Stan a la parole, alors Audrey garde le silence, mais... tout son corps parle. Qu'est-ce qui parle en vous, Audrey Bonnet, quand c'est Stanislas Nordet qui a la parole ?
Je sais pas. C'est... Je sais pas ce qui parle parce que je sais pas ce qu'on entend. Alors, je peux dire ce qui se passe ou ce qui se passe pas en moi, ce qui se passe. Alors, c'est différent à chaque fois. Ça prend des...
On en est à combien, là, 200?
Oui, peut-être, ce qui n'est pas beaucoup entre en 12-13 années, parce que par exemple voilà, la Comédie Française, on peut se retrouver à avoir joué 150 fois en une année. Donc c'est disséminé comme ça dans le temps, et c'est ça qui est beau et c'est ce qui est rare. J'aimerais parler de cette rareté, parce que c'est, mais effectivement la première heure, c'est de mettre toutes les écoutilles, et Pascal nous a dit qu'on était des danseurs, il ne nous a pas dit qu'on était des acteurs.
Il me l'avait dit une fois, c'est un spectacle de danse pour lui, Clôture de l'amour.
C'est ça. Et en fait, quelle magie de dire ça, parce que ça permet à tout le corps d'écouter, d'oser écouter, sans se soucier de comment il écoute et de le laisser écouter. Et en même temps, de laisser l'écoute de la salle, donc des gens qui sont là, avec leur fréquence silencieuse aussi, comme la mienne, attraper ça. Et en fait, c'est pas si silencieux que ça, ça vibre de partout. Et c'est comme si, en fait, entre Stan et cette salle qui reçoit ça avec ses fréquences intérieures et ses secrets, ça se met à battre sur moi. Donc voilà, je me retrouve réceptacle de, comme ça, pris au cœur entre deux. Et pas uniquement de Stan, même si Stan, voilà, je l'ai dans le viseur et je le regarde travailler, on s'accompagne travailler, c'est ça qui est beau, c'est qu'on est au travail dans cette pièce chaque soir, et que ça c'est fou, c'est tellement précieux, c'est tellement rare aussi de pouvoir se regarder travailler, s'accompagner. Mais voilà, je me retrouve entre l'humanité et celle de Stan, comme ça, là. Et donc presque, il n'y a rien à faire qu'à écouter. Donc je ne sais pas ce qu'on entend, mais moi, j'entends beaucoup de choses.
Et quand vient le tour d'Audrey, comme une vanne qui s'ouvre, comme une parole qui peut enfin sortir, tous ces mots qui sortent, alors qu'ils sont les mots écrits par Pascal Rambert, mais vous le disiez tout à l'heure, d'une certaine façon aussi, ce sont vos mots, puisque Pascal Rambert a écrit, en l'occurrence, pour Stanislas Nordet et pour vous. Il y a des mots, il y a des pensées qui viennent de vous, d'une certaine façon, c'est un peu chamanique peut-être, mais c'est ce flot, comment ça démarre pour vous?
Oui, c'est un peu chamanique, c'est sûr, c'est même si je j'ai jamais pratiqué le chamanisme, mais j'entends, oui, il y a une chose de la transe, il y a une chose de qui me fait partir tout de suite sur les rappeurs qui se sont mis à écrire leurs mots et qui les ont sortis, enfin par exemple les flots les flots d'Aminem ou Kendrick Lamar ou des rappeuses ou Kazé ou enfin je travaille beaucoup avec eux, ils m'accompagnent énormément. Kerry James aussi, sa manière de d'émettre les mots, de les sculpter comme ça dans l'espace et de les mettre en vie et qui peut s'en emparer et s'en sert pour les dire. Alors je m'embarque, j'ai envie de vous dire plein de choses en fait, mais par exemple ça m'est arrivé de sortir de Clôture de l'amour et certaines personnes, hommes et femmes, sont venues me voir en me disant « Oh merci, je vais pouvoir dire ce que j'avais à dire, vous m'avez ouvert quelque chose où ça y est, je sais où ça se passe en moi et je vais pouvoir dire quelque chose. » Alors bon, et là souvent c'est des femmes qui venaient me parler en me disant « Oh ça y est, je vais sortir d'un silence qui est fort en moi. » Et j'ai l'impression que Pascal, voilà, il me fait sortir du silence avec des premiers mots qui sortent. Et alors, voilà, qu'est-ce qui prolonge le silence finalement? C'est peut-être pas en sortir, c'est le prolonger. Et il devient sonore. Ça devient un silence sonore parce que finalement, les choses bouent dans les êtres qui se taisent. Je vous dis ça parce que on est remué sans cesse par tout ce qui se tait autour de nous et que finalement sur un plateau dans l'art vivant on est tout le temps à cet endroit-là d'une conscience collective dans une salle. On ne peut pas empêcher dans une salle tout ce qui est en train d'arriver inconsciemment en salle. C'est chamanique, c'est-à-dire que tout le monde est là, et même hors les murs, c'est-à-dire ça se met à vibrer de partout, et on peut pas faire sans. Alors c'est troublant, c'est déstabilisant, c'est pas du tout confortable, faut faire avec ça. Et donc se mettre à parler, oui, après une heure d'écoute, de se mettre à dire les mots. Alors il y a une chose très concrète, c'est que je me redis la phrase, la première, je me la redis un peu pendant que les enfants chantent, ou avant, un peu avant, pendant que Stan est en train de parler, je me dis c'est celle-là la première phrase, parce que tout est tellement inconscient et on l'a tellement joué, le temps a tellement passé dedans qu'il y a la place qu'à ça. Il y a la place plus qu'à l'inconscient, ce qui est rare au théâtre, de pouvoir être là et se dire « Allez, je vais parler, mais je ne sais pas ce qui va sortir et comment ça va sortir. » Et Et des fois aussi faire l'expérience d'y aller sans avoir fait ni une italienne, c'est-à-dire se refaire le texte avant, ou ne pas avoir répété, se retrouver un an plus tard et y aller. Allez Stan, on y va, on verra ce qui va se passer. Et c'est fou, on peut pas faire ça avec tous les projets. Il est celui-là, il est écrit, il est inscrit comme ça. Pascal, il le propose au monde comme ça. Et c'est pour ça qu'il fait le tour du monde avec. C'est qu'il continue d'écrire avec les corps. Il a écrit pour tous les corps. Il dit qu'il écrit pour qu'il a écrit pour le corps de Stan et pour moi. Il écrit pour le corps humain. Et donc ça se flanque dans toutes les cultures, dans toutes les langues, parce que clôture de l'amour. Ça, c'est merveilleux d'avoir pu le voir par d'autres actrices, d'autres acteurs dans d'autres langues. On devient bilingue pendant 2 heures en Chine, d'aller voir les actrices et acteurs chinois le dire en chinois et être bilingue en chinois pendant 2 heures, c'est merveilleux. Et voir leur corps se mettre inconsciemment à émettre aussi. Et ça raconte le rapport des hommes et des femmes, de l'amour, de... Et voilà, il y a toutes les femmes qui arrivent à chaque fois dans toutes les cultures et tout crépite. Et donc, c'est un texte qui va à la rencontre des êtres, qui leur donne des rendez-vous. Il donne des rendez-vous dans chaque pays avec ce texte. Alors certes, il écrit pour nous, mais je suis sûre que n'importe quelle actrice ou n'importe quel acteur qui aurait émis ce texte en premier, il y aurait eu la même déflagration.
Moi, j'en suis pas tout à fait certain, mais ce dont je suis sûr, par contre, c'est que le succès aussi de ce spectacle, c'est qu'on a envie de le revoir. Moi, comme beaucoup d'autres, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai toujours envie de le voir, même si ce n'est pas forcément une partie de plaisir non plus pour les spectateurs et spectatrices, parce qu'on entend des choses qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Et puis, évidemment, on n'est plus le même dans sa vie, 1 an avant, 5 ans avant, 10 ans avant. Mais c'est ce qui fait aussi la force de ce spectacle. Vous reprenez donc demain et jusqu'au 4 mai au Théâtre 14. Là, vous êtes dans quel état d'esprit d'y retourner demain?
Très heureuse aussi d'y retourner. À chaque fois, c'est remonter. Ouais, c'est continuer sur le ring. Et réaliser au moment où, donc, on verra demain, où ça en est dans mon corps. Parce que tous les mots sont modifiés. Même si, bon, voilà, il y a une fréquence, on enclenche des énergies, on sait que les énergies, comme des colonnes vertébrales, sont là, qu'on va enclencher à tel endroit, mais tout se modifie tout le temps, et en fait, ça va être un état des lieux des corps et de la vie qui est passée dans le corps de Stan et dans le mien depuis la dernière fois qu'on l'a joué. Et à chaque fois, c'est assez étonnant. Et voilà. Et surprise.
Surprise. Alors, il faudra qu'on se revoie à la rentrée, parce qu'à propos de reprise, j'ai été ravi d'apprendre que vous reprendrez bientôt dans La solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, mise en scène et dispositif imaginé par Roland Osay, avec une partenaire pas trop mal non plus, Anne Alvaro. Oh. Hein, c'est toutes les deux, et avec les spectateurs ont chacun un casque. C'est un dispositif vraiment très, très précieux et précis. J'avais la chance de voir le début au métro Chapelle, devant les Bouffes du Nord, avant de rentrer dans le théâtre. On le reverra à la rentrée, ce spectacle de Blois à Besançon, en passant par nombreuses salles en Ile-de-France. Donc, on va prendre rendez-vous. Mais avant d'ouvrir à d'autres chapitres, d'autres aspects de votre travail, Audrey Bonnet, votre choix musical, qui s'est porté sur un morceau de Jeanne Adède, Look at Them. Au-delà du fait que ce morceau est sublime, pourquoi ce choix?
Parce que cette artiste est sublime, parce qu'elle m'accompagne beaucoup. Voilà. Jeanne Adède et un artiste aussi avec qui elle travaille, qui est Dan Levy, qui fait ses arrangements et qui a produit son premier album, Be Sensational. Et voilà, elle m'accompagne, c'est-à-dire que là où elle travaille tout le temps, c'est des échos, voilà, très précieux pour moi. Ça entre en résonance. Elle entre en résonance tout de suite avec là où j'en suis, et c'est une grande alliée.
On écoute Jeanne Adède.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds. Who are we fooling? When we cry, when she says everything is fine, over her head clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head,
Tell me what you see over there, dancing in the sea, free from all worries, laughing at me. If you say it's a mystery, well, I will say easy, but I agree, no, I
Alors après ce plaisir d'écouter Jeanne Adède grâce à vous, Audrey Bonnet, on va écouter, évoquer un nouveau plaisir nouveau pour vous, celui de la mise en scène. Avant cela, une courte archive au micro de Laure Adler sur France Culture en 2013. Stanislas Nordet, vous connaissez un peu, évoquait son besoin de redevenir comédien après avoir beaucoup mis en scène. Écoutez-le.
J'aime l'idée d'être un véhicule, hein. C'est-à-dire, pour moi, l'acteur, c'est le véhicule de la parole, c'est le véhicule de l'auteur, donc le véhicule de la pensée. Donc je trouve que c'est un endroit extrêmement précieux, à la fois quand on est acteur et quand on est metteur en scène, parce que, avant toute chose, quand on fait ce métier-là du théâtre, je pense que le point le plus important, c'est la rencontre avec le public, qu'on soit metteur en scène ou acteur. C'est comment est-ce que on vient transmettre au public des textes qui nous importent, qui nous bouleversent, qui nous inquiètent. Et à partir de ce moment-là, être à la fois du côté de l'acteur et du côté du metteur en scène, ça permet d'explorer vraiment les deux modes de rapport au public et de rapport à l'œuvre. Et ça, c'est très important pour moi d'explorer les deux faces. Je pense que quand on est qu'acteur ou que metteur en scène, il y a une face de la montagne qu'on n'explore pas et il nous manque un petit quelque chose quand même.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans un même mouvement que celui de Nordet, mais inversé, Audrey Bonnet, avoir été beaucoup comédienne, vous amenez vers la mise en scène. Même si vous avez dit tout à l'heure que vous ne l'avez pas fait exprès, que c'était pour dépanner, que quelqu'un s'y colle, mais tout de même.
Oui, je ne sais pas, parce que c'est vraiment une chose à laquelle je n'ai jamais songé et où je m'étais dit, oh là là, mais ça, je ne pourrais pas le faire. Je pourrais attraper une caméra et aller par là, peut-être pas écrire, mais attraper le voilà. Et donc peut-être que oui, c'est un besoin qui m'arrive, parce que en fait c'est aussi, on transmet, et je me rends compte que voilà, il y a des, comment dire, que le moyen d'expression n'est pas toujours celui de l'interprétation ou de jouer ou d'émettre les mots, même si c'est celui qui est comme ça apparemment entier en moi, c'est celui que je travaille, auquel je m'entraîne, un peu comme une athlète, quoi. C'est-à-dire, c'est mon entraînement. Et donc, voilà, j'en suis à là de l'entraînement. 3 ans plus tard, ben, j'en suis à là avec ça. J'ai changé de raquette, je passe à là. Mais, comment dire, des fois, c'est comme si je percevais, je me disais, comme si j'avais une vision de me dire, oh là là, mais là, il faudrait que ce soit émis là, à cet endroit-là, et peut-être pas dans le circuit normal du théâtre non plus. Peut-être, allez, passons, allons jouer sur, je sais pas, dans des salles des fêtes et cours d'école, place de village, quai de gare. On va voir. Ce projet-là, on va l'emmener un peu comme ça partout. Dans l'espace public, on va voir où ça vibre. Et parce que la boîte noire, elle me met dans le noir, en fait. Et j'ai besoin de réfléchir, de péter les murs, de péter aussi les frontières juste spatiales comme ça autour de moi, de tout exploser. Et je me dis, mais faut y aller. Tant pis si tu n'as jamais fait ça, tant pis, c'est des expériences que tu sens, que tu as besoin de faire. Oui, ça rend les mains moites, ça met le corps en eau parce que bon, là, je ne l'ai jamais fait. Mais en fait, j'ai de plus en plus envie d'aller vers ce que je n'ai jamais fait, jamais expérimenté, jamais exprimé. Pour pouvoir, je sais pas, parce que des fois c'est des vecteurs qui sont pas les miens, mais il se trouve que c'est là que je l'entends, que je le perspective. Voilà.
Alors là, on retrouve Mathieu Genêt par deux fois. D'abord avec lui qui a écrit, interprété sur les chantiers de l'éternité. Ça, c'est la bascule. Là. Audrey Bonnet devient metteuse en scène. Mais avec Mathieu Genêt et ses camarades du Théâtre de la Verdure, dans le Bois de Boulogne, au Pré-Catelan, ils vous ont demandé de carrément mettre en scène Hamlet, ce que vous avez fait. Et donc, bonne nouvelle, reprise du 29 juin au 13 juillet, dans le cadre du Festival du Théâtre de la Verdure. Cette production d'Hamlet, qu'on pourra revoir donc dans quelques semaines. Hamlet, quoi, faut y aller. Moi, je n'ai pas vu ce spectacle. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Quelle a été votre façon de l'approcher?
Oui, alors c'est un grand terrain d'entraînement pour moi, Hamlet. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis que j'ai commencé le théâtre, on m'avait offert ce livre, Hamlet, dans la traduction d'Yves Bonnefoy. Et donc, avant même d'en faire, je lisais et je m'entraînais à dire ces mots-là, de tous les personnages, peu importe. Et voilà, j'ai continué à faire ça à l'école, au conservatoire, à plusieurs. On faisait tourner, on tournait sur tous les rôles, on s'est entraîné. Et donc, quand la troupe du Théâtre de Verdure, où il y en a pas mal qui sont de ma promotion du conservatoire, m'ont demandé, voilà, est-ce que tu viendrais nous mettre en scène? J'ai dit, écoutez, je peux vous accompagner. Ouais, d'accord, allez, on va continuer, c'est loin. Mais on va voir où ça en est, ce terrain d'entraînement-là, où est-ce qu'il en est. Et donc, j'ai pas choisi les acteurs, les actrices, à part, bon, Mathieu Genêt, qui est un acteur que j'avais déjà choisi, mmh. Et Mélodie Pigny, qui a rejoint l'aventure. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose, ça, de partir à l'aventure d'acteurs, d'organicité qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas entrevu, et de se dire, allez, ben, tu veux te déplier par là, ok, je vais t'accompagner à te déplier dans ce sens-là. J'ai pas d'idée ou de concept ou de théorie qui viendrait guider les choses autre que me brancher sur des énergies, des cœurs, les voix de chacun et de les relier, ce que disait Denis tout à l'heure, et de relier entre elles ces énergies. Et j'avais envie, peut-être c'est la seule chose qui a insufflé une direction comme ça, que ce soit un relais d'Hamlet entre des actrices et des acteurs. Et donc, il se passe le relais à l'intérieur. Alors, tout ça ressemble toujours à un terrain d'athlétisme ou à un gymnase ou à une salle de sport, mais je crois que c'est vraiment ce qui me constitue. Donc, ça se passe aussi autour d'une table de ping-pong, forcément, elle est là.
De tennis de table, vous voulez
dire ? Tennis de table, bien sûr, Arnaud. Oh là là, ça y est, j'étais partie ailleurs, c'est le théâtre de Verdure. Mais
là, les murs, ils sont éclatés. Hein.
Ouais, les murs sont éclatés, c'est ça. Et donc, on se provoque à cet endroit-là chaque soir. Donc, en fait, c'est des... Voilà, il n'y a rien qui est vraiment établi autre que des trajectoires qui vont se connecter chaque soir. Et j'essaie de leur proposer. Et on va y retravailler, là, parce qu'on a eu très peu de temps. Là aussi, on s'est précipité, mais c'est beau. C'est une expérience. C'est une expérience sous le ciel, voilà, comme ça.
Alors, quelques instants à peine, mais avant de conclure cet entretien, pour évoquer un film auquel vous avez participé, qui vous tient à cœur, celui qui soigne Muganga, de Marilyn Roux, qui est un biopic, ce qui peut être très noble, quand il est consacré à Denis Mukwege, ce médecin gynécologue congolais qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes. Pas de date de sortie encore, mais ce film vous importe,
oui,
aux abonnés.
Il m'importe beaucoup, c'est un film très engagé, voilà, auquel je suis très, très heureuse d'avoir participé. Peu importe la grandeur du rôle, mais j'avais dit à la réalisatrice, à Marie-Hélène Roux, que j'y participerai comme elle veut. Je veux bien venir masser les épaules des actrices qui ont à dire ces mots-là. Je veux bien apporter les cafés, être là. Et donc, oui, c'est un film très important. Alors, la date de sortie n'est pas encore prévue. Ils sont en poste...
En
post-production. J'ai très hâte de le voir. C'est un film très important qui a une portée universelle et... Voilà, avec Isaac de Bancolé, Vincent McCain, Deborah Lukumwena, Babetida Sadjo. Et j'attends ce film avec impatience. Vous en avez dit déjà les...
Pour être sûr de bien le guetter.
Pour être sûr de bien le guetter, guettons-le. Guettons-le.
Celui qui soigne.
Très important.
Muganga.
Celui qui soigne.
Alors, il va me falloir bien une minute, en effet, pour annoncer les différentes reprises de Clôture de l'amour de Pascal Rambert avec Stanislas Nordet au Théâtre 14 du 23 avril au 4 mai. Il y a d'autres dates à venir et c'est une bonne nouvelle pour la saison prochaine et notamment au Théâtre de l'Atelier à Paris du 26 octobre au 11 novembre. Il y a d'autres dates qui sont déjà prévues ou en cours de l'être. Du 29 juin au 13 juillet, 8 représentations d'Hamlet au Théâtre de Verdure dans le Pré-Catelan au Bois de Boulogne. Dans la solitude des champs de coton, prenez déjà rendez-vous, ça commencera à Blois le 12 septembre, et puis il y aura sur Rennes, Saint-Quentin-en-Yvelines, le Mont-Saint-Michel,
oui.
Ça va être pas mal, hein, le 8 octobre, si vous êtes par là.
Ah, si ça pouvait être dans la montée des eaux.
Ouais, ce serait pas mal, Montrouge, Sceaux, Besançon, et puis on attend ce film de Marie-Hélène Roux, Muganga. Merci Audrey Bonnet d'avoir été notre invitée.
Merci Arnaud Laporte.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Passionnée par les paysages pré-chrétiens des terres scandinaves, la musicienne Clarissa Connolly avait en 2021 livré The Voyager, un disque qui puisait dans l'histoire de ces lieux. À cette exploration itinérante des paysages nordiques succède une formidable archéologie de soi, l'album World of Work, qui paraît sur le label Warp. Écossaise de naissance, mais installée depuis l'enfance au Danemark où elle a étudié la composition, Clarissa Connolly plonge aux confins de l'âme tout en étant suspendue par la certitude de son sens mélodique. Avec une hauteur vocale qui évoque Kate Bush ou Elizabeth Fraser du groupe Cocteau Twins, elle livre une folk élégante et feutrée. Alternant entre piano et guitare, elle déploie une dynamique d'écriture sans emphase. Le morceau Tenderfoot est notre son du jour.
I didn't know you, oh honey. What a way to start, what a way to start this journey. I saw you. Thank you.
C'était Tenderfoot de Clarissa Connolly, qui sera en concert dans le cadre du festival Days Off à Paris le 25 juin.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Venise pour la 60e édition de la Biennale d'Art, ce grand rendez-vous international qui voit s'exposer des artistes du monde entier dans toute la cité et particulièrement dans l'Arsenal et les Jardins. Alors cette année, la Biennale bat pavillon sous le titre « Étrangers partout », thème ô combien d'actualité en Italie comme partout ailleurs, choisi par le curateur de cette édition, Adriano Pedrosa. Mais c'est Julien Creuset qui a été choisi pour représenter la France. Et l'artiste, qui a grandi en Martinique, entretient un rapport très intime avec l'eau. Et ça, c'est un sacré atout pour Venise. Allez, je vous propose une visite du pavillon français. Mais avant, il faut y accéder. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous venez juste de sortir du pavillon. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qu'on y voit dans ce pavillon français ?
Ah, c'est difficile à expliquer, mais on voit des sculptures, je dirais, très colorées, qui me font penser au Brésil. Je suis franco-brésilienne. Je vois quelque chose d'influence indigène. Et la musique, tout le monde parle de la musique. Hein. Oui. Mes amis m'ont dit qu'il faut y aller et faire attention à la musique parce que c'est extraordinaire.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette musique-là ?
Oui, j'étais en train de penser justement qu'en sortant, je me sentais beaucoup plus calme. C'est comme, c'est un peu une méditation. Si on se laisse guider par les sons, ça vaut la peine de faire la queue. Hein.
Merci beaucoup.
De rien.
Alors voilà, le pavillon français commence par une grande vidéo à l'extérieur. Et puis là, on va entrer dans le pavillon principal. Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez me décrire ce que vous voyez là, ce qu'on a sous les yeux ?
C'est des espèces de lianes de couleurs, des fils, des tressages, comme des espèces de figures abstraites, de longs tissus et fils.
Alors en plus de toutes ces installations colorées, hein, de fils, on devine des fils en tissu, mais également des fils en caoutchouc. Il y a beaucoup de matière qui se mêle dans ces structures tout en transparence. Ça évoque beaucoup de choses en fait quand on est devant. Mais ce qui vient peut-être en premier, c'est la faculté du fil à relier. Reliés à la fois le ciel et la mer, mais également les gens. Et donc au milieu de ces installations, on peut également avoir accès à des poèmes. En anglais, en français, toutes les langues un peu mélangées là aussi. Mais en tout cas, poèmes autour de la mer. Un autre grand écran dans la salle du fond du pavillon. Un travail de vidéo avec une statue classique qu'on pourrait retrouver dans un temple grec ou romain qui coule dans les abysses. Et en plus de couler, pleure et de ses yeux de pierre sortent des torrents de larmes, de rivières. Les spectateurs de cette Biennale de Venise ont des réactions très différentes selon les pavillons. Il y a des pavillons dans lesquels on passe, des pavillons devant lesquels on est stupéfait ou étonné par la grandeur ou le côté spectaculaire des œuvres. Ici, c'est assez différent. Ce que propose Julien Creuset, les spectateurs sont dans un état plus méditatif. C'est comme si tout se calmait. Et les gens s'assoient, écoutent les textes qui sont dits, regardent les œuvres, essaient de déambuler entre ces sculptures. coloré.
Bonjour, je m'appelle Julien Creuset.
Et c'est vous qui avez cette année la charge de ce pavillon français qu'on vient de visiter. La première impression que j'ai eue, moi, en rentrant, c'est que c'est un pavillon très immersif et que le son est aussi important que tout le reste. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça, comme un univers à la fois visuel et sonore ?
Je l'ai conçu comme un univers à vivre et à expérimenter. Quelque chose qui peut peut-être solliciter les différents sens du corps, qui peut qu'on qualifierait peut-être d'immersif, au sens où on peut aussi sentir, on peut aussi entendre et on peut beaucoup regarder. Mais pour regarder, on doit constamment se déplacer, se frayer un chemin, trouver une trace, les lignes du désir peut-être, qui permet tout simplement en fait d'entrevoir différemment l'ensemble des formes en fait dans cette profusion ou cette densité.
Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qu'on entend ? Il y a de la, je l'ai trouvé aussi très littéraire ce pavillon. Il y a de la poésie partout. On entend des textes. Ils viennent d'où ? Qu'est-ce qui est dit ?
Alors j'ai écrit un livret comme on pourrait écrire un livret d'opéra que j'interprète, en tout cas la voix masculine. J'invite une chanteuse. Artiste qui s'appelle Makeda Monet et un musicien qui s'appelle Isma, et c'est orchestré d'une façon à créer une sorte de temporalité qui serait un peu de l'ordre presque du film, comme ça qui où une bande son viendrait modifier en tout cas nos perceptions du paysage qui est donné à voir.
Dans une carrière d'artiste comme la vôtre, qu'est-ce que ça représente d'être choisi pour un pavillon à la Biennale de Venise, qui est quand même un des événements les plus importants dans l'art contemporain aujourd'hui ?
Ben, j'aime bien rappeler que j'ai 37 ans, que ça va être une étape dans ma vie, et ça ne sera pas la dernière des étapes, qu'il me reste beaucoup de choses à faire et beaucoup d'envie. En tout cas, j'ai pu pousser certains paramètres et curseurs que je rêvais de pouvoir faire, et j'ai pu être pour cela bien accompagné par exemple de Céline Kopp et de Cindy Sissoko, qui sont les deux co-commissaires de ce pavillon. Et je crois que c'est un moment important. Comment on peut rendre compte d'un pavillon national, comment on l'endosse, on le porte, et je trouve que ça pose des questions d'identité. Quelles sont quelle est la France, quelles sont les Frances, la langue, quel est le français que l'on parle, quels sont les français que l'on peut parler dans toutes ces diversités, ces particularités et ces émotions.
Là, le pavillon est ouvert juste depuis quelques jours. Vous êtes juste à côté, là. Les réactions des publics, moi, je les ai trouvées très différentes des autres pavillons, dans le sens où il y a un temps qui se pose dans ce que vous avez voulu faire. Les gens sont moins peut-être frénétiques que dans certains où on passe, où on est surpris par le spectaculaire et puis on s'en va. Là, les gens, pour visiter, sont obligés de s'asseoir, d'écouter, de prendre du temps. Est-ce que c'est ce que vous remarquez à la sortie, là, des spectateurs ?
Pour ma part, l'expérience que j'ai envie d'offrir, c'est quelque chose qui doit se vivre. Et on prend le rythme que l'on souhaite, le temps que l'on décide et le temps que l'on a surtout. Et c'est la chose la plus importante, c'est que celui qui rentre et qui passe la porte ait cette liberté de devoir se situer, de devoir faire comme son instinct lui dit. Et j'espère, la seule chose en tout cas que je souhaite, c'est que cette personne peut-être reparte nourrie.
Merci, c'est un beau souhait. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Belle journée à vous.
Merci. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous venez de sortir du pavillon de Julien Creuset. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bon, que c'est une bonne énergie, très belle installation et une énergie assez jeune, assez claque. On voit, on entre et on sort avec un sentiment assez léger, positif, optimiste. Qu'il y a beaucoup de pavillons qu'on ne sent pas cela, au contraire.
Tout le monde nous parle de la musique, vous confirmez que le son dans ce pavillon-là est très particulier ?
Oui, j'aime bien, et juste j'ai resté là-bas un instant pour juste jouir de la musique et de l'ambiance tout ensemble.
Le titre du pavillon français choisi par Julien Creuset dit tout de son projet et de son hommage à Aimé Césaire et Édouard Glissant, deux grands poètes de la créolisation, Alors attention, hein, il faut prendre son souffle. Attila Cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer, gouffre bleu. Nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Et l'expérience de ce pavillon français bien se vit à Venise jusqu'au 24 novembre.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, ce sera la suite de notre exploration de la Biennale. Nous quitterons les jardins pour monter dans le plus grand catamaran du monde qui se trouve être un musée.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.